Merci, bonjour à tous. Merci du privilège que j'ai de pouvoir que vous me donnez de pouvoir parler de ce lien entre l'apologétique et l'évangélisation. Yannick Imbert a déjà bien montré que l'apologétique ne se confine pas à la pure réflexion philosophique. Elle ne se confine pas non plus dans le seul exercice de l'évangélisation du témoignage chrétien. Mais l'apologétique amène à l'évangélisation et l'évangélisation ne se développe pas sans l'apologétique. Alors nous allons voir la question sous trois plans. Un premier plan qui sera notre rapport à la vérité dans un contexte multiculturel. Un deuxième point qui concernera notre compréhension des présupposés des personnes que nous rencontrons, et je prendrai quelques exemples types de profils de personnes dans notre société multiculturelle. Nous avons plusieurs types de personnes à qui nous pouvons être confrontés quand nous parlons de la foi. Et puis, finalement, je vais aborder ce qui a déjà aussi été légèrement abordé par Yannick Imbert, sur la pédagogie de la démarche apologétique, qui concerne notre manière de répondre aux questions correctement, déjà discerner quelles elles sont, et aussi concernant notre attitude qui qualifie la démarche d'évangélisation. Alors on peut passer au premier slide. J'ai pris ce verset qui a été évoqué rapidement, mais qui est quand même un des versets clés qui exprime le projet apologétique biblique dans la première lettre de Pierre. Sanctifiez le Christ comme Seigneur dans votre cœur, toujours prêt pour la défense, il utilise le terme apologia, envers quiconque qui vous demande une parole au sujet de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et crainte, ayant bonne conscience, afin que, lorsqu'on dit du mal de vous, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient confondus. Alors, cette exhortation est bien sûr axée sur l'explication de la foi chrétienne à des non-croyants et à la défense de la véracité de cette foi face à des personnes qui la contesteraient. Mais bien sûr, dans le texte même, il est question d'être prêt. Donc, Pierre ici sous-entend qu'il faut une réflexion préalable, une préparation sur le plan de comprendre le sens de l'exercice, d'en poser les prémices. Et la réflexion apologétique se trouve, en fait, on va dire, entre la théologie systématique ou la philosophie et l'expression de l'évangélisation. Donc, se trouvant entre ces deux champs, l'apologétique touche aux deux. Et donc, il est important de comprendre que nous ne pouvons pas annoncer l'Évangile sans, finalement, de manière déjà peut-être partielle, avoir développé un minimum de réflexion apologétique par rapport aux gens, aux situations que nous rencontrons. Alors, un élément essentiel, et je crois que nous pouvons souligner, c'est que la démarche apologétique, comme l'évangélisation en elle-même, ne peut pas amener le non-croyant à la foi. Je vois la démarche d'évangélisation et l'argumentation apologétique comme un moyen de présenter la foi chrétienne comme une vision du monde convaincante et acceptable sur le plan de la raison. Mais dès l'instant où l'on reçoit ce que les Écritures disent de l'état corrompu de la nature humaine, il est nécessaire qu'il y ait ce miracle de conviction de l'Esprit-Saint pour que la personne adhère à la vérité biblique. Et cela, nous ne pouvons pas le créer par des seuls arguments. Mais j'aime bien l'idée d'ôter des pierres sur le chemin. Une personne étant en chemin, en question, ayant ses objections, présentera des obstacles et il est utile de se dire, au moins j'enlève quelques pierres sur son chemin. Donc l'évangélisation, c'est la démarche de dialogue que la réflexion apologétique prépare. Et bien sûr, au-delà du débat intellectuel, l'évangélisation implique une dimension intuitive et l'œuvre concrète de l'Esprit de Dieu dans le cœur que nous espérons tous quand nous parlons du Christ. Et aussi avec la conscience qu'il n'y a pas forcément d'immédiateté de cette œuvre et de ses effets lorsque nous annonçons l'Évangile, mais nous ne sommes pas là pour être les maîtres de la situation. Nous sommes juste là comme les témoins du Christ, sachant que l'œuvre essentielle appartient à Dieu. Comme disait Yannick Imbert, c'est souvent malgré nous que le Seigneur fait son œuvre de conviction. Alors, je vais reprendre ce petit dialogue ou un extrait du dialogue pour entrer dans notre premier point, qui est notre rapport à la vérité dans un contexte multiculturel. C'est ce dialogue entre Pilate et Jésus à la veille de sa crucifixion dans l'évangile de Jean, où nous voyons Pilate qui interroge Jésus en disant « Es-tu donc roi ?» Et le Christ répond « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Et là, Pilate pose cette question « Qu'est la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ?» Alors nous voyons entre les deux personnes impliquées dans ce dialogue que du côté de Jésus, l'idée de la vérité semble très précise. Il parle de la vérité, tandis que Pilate, en tout cas apparemment, est dans le flou. Et la question qu'il pose, bon, nous ne sommes pas psychologues, mais nous pourrions nous interroger quelles sont les motivations de Pilate. Alors il pourrait y avoir un doute honnête chez Pilate, c'est-à-dire une réelle interrogation, qu'est-ce que la vérité ? Est-ce qu'une vérité unique existerait même ? Une forme de scepticisme, de doute chez lui ? Ou, ce qui est aussi sans doute probable, un refus de se confronter aux conséquences de cette vérité unique que le Christ professe. Si Jésus est le vrai témoin de la vérité et qu'il appelle à ce qu'on écoute ce qu'il dit, puisque celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis, dit le Christ place Pilate devant un choix d'acceptation ou de refus. Et on peut voir dans la question de Pilate une esquive, un moyen d'éviter la confrontation, l'appel à la conversion, en un sens, ou à la reddition, peut-être, de ses propres présupposés pour adopter ceux que présente le Christ comme étant la vérité. En tout cas, sa question reste et mérite d'être approfondie. De quoi est faite la vérité ? Est-ce qu'il existe une vérité unique ? Ou est-ce que chacun doit déterminer sa vérité ? Alors, nous allons juste regarder quelques éléments, mais du point de vue de ce que professent les Écritures révélées par Dieu, la Bible nous parle de manière claire d'une même vérité objective et universelle pour tous les hommes, et non de plusieurs vérités subjectives, tributaires de facteurs tels la culture ou l'opinion majoritaire. On ne vote pas dans les Écritures pour savoir si Dieu est saint. Ça ne se passe pas par le consensus majoritaire d'une société à une époque donnée. Jésus lui-même, c'est vrai que je prends passablement de passage johannique sur la question, mais Jésus se dit donc dans notre texte témoin de la vérité, il parle d'appartenir à la vérité. Un peu plus tôt, il affirme qu'il est lui-même la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Et dans sa prière sacerdotale, il recommande ses disciples à Dieu en disant « Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Et au début de l'évangile de Jean aussi, il nous est dit « Si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Cela se confirme aussi chez Paul qui, par exemple, évoque le cheminement de foi des Thessaloniciens en disant « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la foi en la vérité ». Et un peu plus tard, il dira aux Corinthiens « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité ». C'est assez massif et il n'y a pas trop à douter que la Bible nous parle d'une vérité objective révélée par Dieu par rapport à laquelle il s'agit de se situer. Maintenant, là où il y a problème, et cela touche non seulement à nos concepts, mais essentiellement à notre attitude, et peut-être particulièrement à nous évangéliques, c'est quel est notre rapport à la vérité ? Est-ce que nous, chrétiens évangéliques, nous possédons la vérité ? Alors l'élément gênant dans cette question, c'est le « nous ». Nous qui détiendrions la vérité, ce qui nous placerait, ou placerait l'Église, ou je ne sais quel système organisationnel, en référence première de la vérité. Or, si nous lisons bien les textes, la Bible nous présente Jésus comme étant lui-même la vérité. Donc si Christ est la vérité, et si nous prétendons posséder la vérité, c'est que nous serions propriétaires du Christ. Il me semble que cela poserait énormément de problèmes conceptuels quant à qui est Dieu dans l'affaire. Donc il faut nuancer. En tant que chrétiens, nous sommes témoins de la vérité. Nous reconnaissons Jésus comme la référence suprême et unique, notre référence suprême et unique, et nous essayons de vivre en conformité avec cette référence et avec ce que nous essayons d'en comprendre. Donc personne n'est propriétaire du Christ. Et la vérité que Dieu nous révèle de lui est aussi partielle. La Bible, les Écritures, ne sont pas la révélation de tout sur tout. Je pense que vous auriez de la peine à changer le Delco du moteur de votre voiture en utilisant la Bible. Donc quand on vous dit « la Bible répond à tout », il faut savoir de quoi on parle. Et il est clair que Dieu nous a dit tout ce qui était suffisant à son sujet pour nous aujourd'hui, maintenant, dans cette vie, mais qu'il y a bien des éléments qui ne nous sont pas communiqués, pour l'instant en tout cas. On peut se rappeler le passage bien connu de Deutéronome, où Moïse nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc il y a bien l'idée de révélation suffisante, mais aussi de mystères, d'éléments qui appartiennent à Dieu. La Bible se présente aussi comme la vérité, mais aucune église ne peut prétendre plus que d'essayer de comprendre ce message des Écritures et de l'appliquer. D'où aussi dans certains débats, je pense notamment au débat entre certains tenants d'interprétation biblique par rapport à la science sur la création, le risque de la confusion entre la vérité des Écritures et la validité de l'interprétation qu'on en fait. Je me suis fait récemment bousculer sur Facebook par quelqu'un qui se prétendait créationniste biblique. Et il estampillait son interprétation, bon, tergéniste particulière, du sigle biblique, ce qui excluait par là même toutes les autres interprétations, comme n'étant pas biblique. Et là, il y avait la confusion évidente entre la référence des Écritures que l'on considère comme parole de Dieu et l'interprétation que l'on pense pouvoir en tirer. Et cette interprétation étant marquée par le besoin permanent d'être révisé, réformé, etc. Job, on le sait bien, à la fin de son parcours avec Dieu, dialogue avec le Seigneur. On peut comprendre en tout cas le texte comme un dialogue, bien que les évidences ne soient pas totales dans le texte direct, mais là je fais un dialogue entre Job et Dieu. Job dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et là, je pense que Dieu s'exprime en disant « Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Et Job dit « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Et il est important donc de comprendre cette limite. Nous et la vérité. Nous ne possédons pas la vérité, mais nous confessons la référence de vérité qui est pour nous le Christ et sa parole. Si nous n'avons pas accès à toute la vérité, l'Écriture affirme qu'elle nous transmet la vérité de manière compréhensible, exprimable par un discours raisonné. Le texte biblique est compréhensible et on peut dire sa foi selon des propositions raisonnées. Et donc l'apologétique et l'apologète évangélique ne va pas, par exemple, souscrire aux thèses existentialistes qui prônent une rupture radicale entre la foi et la raison, au point que la foi ne puisse pas être dite dans un langage accessible à la raison. Totale rupture à ce niveau-là. Et je cite Cornelius Van Til, qui est un des grands théologiens de la position présuppositionnaliste, que j'apprécie, en tout cas sur bien des points, où, en tant que père de cette école apologétique, dit qu'il est essentiel de revendiquer que seul le christianisme présente une conception humainement raisonnable, tout autre est complètement irrationnel. Alors bon, c'est le style de Van Til, qui n'est pas toujours marqué d'un irénisme débordant, mais dans le fond, si on y réfléchit, oui, hors de ce que Dieu nous dit de ce monde, si l'on raisonne à partir d'autres présupposés, on arrive à des incohérences, et le but du chrétien est bien d'expliquer en quoi la révélation biblique, le message chrétien exprimé dans la révélation biblique est la meilleure explication de ce monde, la plus cohérente. Alors, nous nous exprimons dans un contexte multiculturel et c'est clair que nous sommes en tension dans une société occidentale où vraiment les messages sont multiples. Les droits de l'homme impliquent la liberté d'opinion et d'expression de celle-ci, la démocratie, le respect d'autrui. Et notre société, elle comprend des chrétiens, une minorité, des athées, des musulmans, des bouddhistes, des adeptes du nouvel âge, des gens sans religion qui sont le courant religieux le plus... celui qui connaît la plus grande croissance, en Suisse en tout cas, 10% toutes les décennies. Le canton de Bâle-Ville compte 42% de personnes qui se réclament d'être sans religion. Donc certains fantasment sur l'islam. Dites-vous que la religion sans religion est en train de progresser à une vitesse fulgurante et qu'il faudrait peut-être s'y intéresser quelque peu. Donc, pour bien vivre ensemble, nos autorités politiques ne se prononcent pas sur ce qu'on a le droit de croire ou non, tant que la paix publique est respectée. Et à ce fait s'ajoute aussi le relativisme qui anime la majorité des gens pour tolérer les autres et en même temps ne pas faire de choix, parce que cela impliquerait des remises en question. On préfère écarter l'idée d'une vérité unique. Il faut aussi tenir compte de l'histoire. Autrefois, nous étions ici en chrétienté avec un pouvoir religieux qui imposait ses convictions avec violence et injustice à la société. Nous avons eu quelques états d'âme par rapport au minaret il y a quelques années. Je voudrais vous rappeler que nos braves clochers étaient des lieux de marque d'un totalitarisme devant lequel quelques braves anabaptistes, dont je suis un des descendants, ont été joyeusement brûlés ou noyés s'il y avait une rivière à proximité. Donc il y a eu quand même un passé assez lourd, alors avec de belles choses aussi, parce que Dieu agit toujours de manière formidable aussi, malgré toutes les approximations de la société humaine, mais quand même un pouvoir intolérant qui fait que les gens ont peur des éléments discutables de ce passé, et donc rejette non seulement le mélange entre la religion et le pouvoir, mais aussi l'idée d'une vérité unique, puisqu'au nom d'une vérité unique, on a oppressé des gens et on a commis des crimes. Alors comment parler de la vérité dans une société à diverses cultures? Alors je vous donne ici quelques lignes, je brosse rapidement les choses. Il s'agit d'avoir un respect total des personnes et différencier ce respect des personnes, des désaccords possibles entre notre vision du monde et celle de nos interlocuteurs. Et nous devons aussi, cela a déjà été abordé par Yannick Imbert, parler à ces personnes selon des catégories de pensée dans lesquelles elles se repèrent, c'est-à-dire être bien à l'écoute de savoir d'où la personne s'exprime. Mais on ne peut pas éviter les questions qui fâchent, l'adaptation, le mouvement d'écoute, le mouvement vers l'autre comporte des limites où il y a un choc entre la vision du monde chrétienne et la vision du monde de la personne non chrétienne. Et il faut assumer ce choc. Tout à l'heure, une question a été posée au sujet du sectarisme. C'est clair que nous ne sommes pas appelés à être sectaires. Mais là, de là à perdre toute couleur et à se conformer et à devenir un caméléon qui finalement n'a d'identité qu'en fonction des désirs de l'autre, n'est pas exactement non plus le chemin que le Christ nous montre. Alors, les questions fâchent, mais nous devons pouvoir faire un chemin vers les personnes. Alors, j'aborde juste les deux discours de Paul significatifs d'une démarche d'une culture vers l'autre qui sont intéressantes. Il y a, avant le discours d'Athènes, un discours plus court, moins remarqué, à Lystre. Vous savez, cette ville où Paul commence à en guérir des malades, on l'a pris pour Hermès qui avait ce pouvoir-là, et on a pris Apollos pour Zeus, parce que Hermès étant en plus le messager des dieux, on a dit, les gens se disaient, ben, celui qui ne parle pas, ça doit être le chef. Ce qui est un peu le contraire entre Paul et Barnabas, mais c'est comme ça que ça s'est présenté. Et si on regarde ce discours de Paul à Lystre, c'est très intéressant, parce que l'apôtre ne donne aucune référence biblique, puisqu'il a affaire à des gens qui sont totalement en dehors d'une culture ayant pris connaissance des Écritures. Et de manière étrange, peut-être même dérangeante, il ne développe son discours que sur la thématique de la providence divine, sans aborder la rédemption qu'il y a en Christ. Alors, on peut peut-être considérer que Luc n'a pas relevé cet élément du discours pour souligner la démarche très particulière de Paul dans ce cas-là, la première démarche vraiment face à un public non judaïsé, on va dire, ou hors connaissance biblique. Mais en tout cas, Paul, ici, prend son temps pour parler de la providence divine. Et d'ailleurs, Francis Schaeffer, qui est aussi un auteur qui a beaucoup poussé au témoignage chrétien, a dit que si on lui donnait une heure pour parler de sa foi à un non-croyant, il prendrait 50 minutes pour parler de la création et 10 minutes sur la rédemption, par rapport à quelqu'un qui n'a vraiment aucun arrière-plan biblique et chrétien. C'est peut-être des petites leçons que nous donnent les Écritures parfois sur notre manière d'aborder. Balancer Jean 3,16 d'emblée dans le nez de quelqu'un n'est pas forcément la manière la plus intelligente d'entrer en dialogue, surtout avec un bouddhiste qui est terrorisé par l'idée d'une vie interminable, et on vient lui promettre la vie éternelle. Il y aurait besoin en tout cas de quelques explications de ce qu'on entend par là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul, bien sûr, les gens veulent l'adorer comme un dieu, donc là, il y a une confrontation, il y a forcément, avec une adaptation, une confrontation, et là, bien sûr, Paul dénonce le polythéisme de cette religion populaire. Il faut savoir aussi, il appelle les idoles des futilités, et il exhorte ses auditeurs à croire au Dieu unique et vivant, donc une profession monothéiste face à ces polythéistes. Donc, il va bien sûr citer un texte de Xénophon, un auteur grec qui évoquait la providence des dieux, mais il utilise ce texte en lui donnant un sens monothéiste. Et donc, il entre en conflit avec cet auteur sur le fait que son polythéisme est erroné. Face aux sages d'Athènes, voilà, on en a déjà parlé, je peux aller assez vite, mais il cite Épiménide et Aratos. Et de manière aussi assez provocante, là aussi, de Aratos, il cite une ode à Zeus qu'il interprète de manière monothéiste. Bon, ça peut arriver aussi que dans une prédication, un pasteur cite Sartre en lui attribuant quelques vertus. Mais je veux dire, c'est intéressant parce que certains croyants sont tellement inquiets d'avoir des pratiques païennes dans leur vie. J'aime bien rappeler aux gens que de prier Dieu, c'est prier un terme qui est dérivé de Zeus. Donc, c'est peut-être pas le mot qui compte, mais peut-être ce qu'on met dedans. Mais en tout cas, quand Paul évoque ses auteurs et développe son propos, il y a de nouveau un moment de choc quand il aborde la question de la résurrection d'entre les morts. Et là, à ce moment-là, son discours prend fin. Et il y a eu démarche, il y a eu de la part de Paul un désir de s'appuyer, aussi de s'appuyer sur ce Dieu inconnu, etc. Donc de prendre des références des gens avec qui il discutait pour qu'on sache qu'on est quand même, on se comprend. Mais il y a un moment où il y a choc, il y a un moment où il y a confrontation. Et après, il y a toujours un moment où il y a confrontation. Si l'évangile est vraiment la vérité face à des visions du monde erronées, il y a forcément confrontation et il faut l'accepter. Alors, il est aussi important, et ça c'est très important peut-être dans la pratique de notre témoignage, c'est qu'il y a une différence entre les références objectives et subjectives de ce que nous disons. Il faut que nous admettions que dans ce que nous exprimons, il y a des éléments qui touchent à notre vécu et donc forcément qui sont subjectifs. Et c'est nous, avec par exemple nos présupposés de croyants, qui attribuons à l'action de Dieu telle expérience ou tel événement. Je voulais traverser la route, j'ai trébuché, une voiture heureusement m'a manqué de 2 cm, merci Seigneur. Bon, je veux dire, c'est une interprétation qui vient d'un présupposé que Dieu est souverain et que c'est Dieu qui a empêché que la voiture m'écrase. Maintenant, un athée dira, non, c'est juste une affaire de circonstances. Donc il y a déjà cet élément-là, quand nous témoignons de l'œuvre de Dieu dans notre vie, il y a des éléments qui sont déjà conditionnés par nos présupposés de foi. Et il faut faire attention quand nous parlons de notre cheminement, de ne pas présenter ce cheminement comme étant aussi infaillible que le message objectif des Écritures. Donc notre témoignage n'a qu'une valeur relative. Et il est essentiel que quand nous exprimons ce que nous vivons de Dieu, nous puissions le rattacher au message objectif des Écritures. Et actuellement, il me semble qu'il y a une hypertrophie du témoignage personnel, un subjectif, qui montre aussi peut-être que la société en général est rétive à toute idée de vérité objective, mais en tant que croyant, notre témoignage personnel ne devrait avoir de sens ou de valeur que, quoi, n'aura de valeur que si elle amène aux vérités objectives dont elle prétend être l'écho. Affirmer, comme André Frossard le disait, « Dieu existe, je l'ai rencontré », c'est très sympathique, mais il faudrait compléter ce « Dieu existe, je l'ai rencontré » par une référence objective à la révélation scripturaire, ce que Dieu dit de Dieu, et pas juste ce que je sens ou ce que je peux penser, ressentir de Dieu. Alors, est-ce que nous détenons la vérité ? Non, mais nous nous référons au Christ qui se présente comme la vérité, et nous croyons à sa parole qui se présente comme la vérité, et il faut être assez humble pour reconnaître que nous ne sommes pas maîtres de cette vérité. Alors, en deuxième plan, je vais essayer d'aller plus vite, je vois que l'heure file, c'est terrible. Je ne peux pas vous maltraiter comme je maltraite mon église d'habitude, donc je dois me tenir à mes temps. Parce que dans mon église, en général, le Saint-Esprit est une bonne excuse pour conduire ces prédications beaucoup trop longs. Chez certains prédicateurs, c'est même une excuse pour ne pas les préparer du tout. Mais je ne me permettrai pas ces libertés parmi vous. Mais ce qu'il est important, alors là, on va entrer plutôt dans le contact avec différents profils, c'est comprendre les présupposés des autres. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais bon, on connaît toujours cette histoire très drôle du tag. Hein, la personne qui a tagué sur un mur, « Jésus est la réponse !» Et un petit malin est venu écrire dessous, « Je veux bien, mais c'est quoi la question ?» On est très fort pour dire « Jésus est la réponse » sans s'intéresser aux questions des autres. Donc, il est très important, quand on est en contact avec des personnes qui interrogent notre foi, de savoir d'où elles viennent, quels sont les présupposés, la vision du monde sur laquelle elles se reposent pour nous interpeller. Alors, je prends l'exemple classique du rationalisme athée. Je pense qu'Yannick Imbert va encore mieux en déployer la description, mais on pourrait dire que dans ce cas-là, parmi les présupposés, c'est que l'univers aurait une origine impersonnelle et que les phénomènes non observables et mesurés par les méthodes scientifiques sont impossibles, ne peuvent pas être. Je parle vraiment de la position scientiste naturaliste. Donc, l'adepte de cette position, en fait, est souvent militant, présente un système argumentatif élaboré. Il a déjà rodé lui-même un système apologétique de sa position. Donc, c'est des fois une confrontation des démarches. On peut penser notamment chez des Richard Dawkins ou Dennett, Harris, Hitchens. On les appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse, là. C'est un peu les néo-athées qui veulent convertir le monde, éradiquer la religion du monde pour placer l'athéisme. Donc, ce sont des prosélytes de la cause. Hein. Ce n'est pas juste des personnes qui ont ces convictions-là. Et là, dans ce dialogue-là, je pense que l'approche présuppositionnaliste de Van Til, elle a vraiment tout son sens, sans doute à cause de ce genre de profil qu'il a pu affiner sa position, bien sûr à cause des Écritures, qui, à mon avis, enseignent clairement cette approche. Mais il s'agit de faire prendre conscience à notre interlocuteur qu'il n'est pas dans une situation neutre et que sa raison n'a pas en elle-même un pouvoir de donner un sens aux choses, mais n'est qu'un outil au service d'une vision du monde qui est la sienne Et que cette raison, moi en tant que chrétien, je l'use avec autant d'efficacité au service de la vision du monde que m'enseignent les Écritures. Et ce n'est qu'à cette condition de prendre conscience de cela que le rationaliste athée pourra entrer en dialogue. C'est qu'à la condition on arrive à amener l'athée à reconnaître qu'il est lui-même dans une position religieuse, une position de décision, notamment de rejet de la révélation biblique, et que c'est une décision, on va dire, quasiment axiomatique, qui part d'une décision de foi au départ. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut confronter les visions du monde. Voilà. Alors je vais peut-être aller assez vite, puisque Yannick Imbert va développer plus précisément les choses. Je souligne juste ce que Cornelius Van Til dit dans son credo, et je cite la traduction de Jacques André, qui se cache là-bas, mais qui a publié le credo de Van Til. « Discuter à partir de présuppositions. Le chrétien, à la manière de Tertullien, donc on voit que ça ne remonte pas ailleurs, doit contester les principes sur lesquels se fonde la position adverse. La seule manière de prouver la position chrétienne est de montrer qu'à moins de présupposer sa vérité, il n'y a aucune possibilité de prouver quoi que ce soit. L'état réel de la situation, tel que le proclame le christianisme, est la base nécessaire à la preuve elle-même. Prêcher en sachant que l'acceptation du Christ de l'Écriture par les pécheurs, détournés de Dieu et fuyant sa face, n'est possible que lorsque l'Esprit-Saint ouvre leurs yeux, de sorte que devant l'évidence indéniable et claire, ils voient les choses comme elles sont vraiment. Présenter le message et la position du christianisme le plus clairement possible, sachant que parce que l'homme est ce que le chrétien dit qu'il est, le non-chrétien pourra en comprendre intellectuellement les conséquences. Ce faisant, nous lui dirons ce qu'il sait déjà dans une large mesure, mais qu'il cherche à occulter. Ce processus de rappel prépare un terrain fertile à l'Esprit-Saint qui, dans la grâce souveraine, peut accorder la repentance au non-chrétien de sorte que celui-ci puisse le reconnaître, lui qui est la vie éternelle. Je trouve que ce texte montre à la fois les limites de l'exercice apologétique, puisque l'œuvre de l'Esprit-Saint est nécessaire, mais la nécessité aussi de confronter le non-croyant à ses présupposés, alors qu'il se prétend neutre, et qu'il bâtirait, soi-disant, sa vision du monde sur la seule raison qui aurait une vertu en elle-même d'amener à la vérité, alors qu'elle n'est qu'un outil au service de ses présupposés. Autre position, c'est l'agnosticisme, une affirmation moins agressive qui peut prendre plusieurs formes. L'idée, c'est classiquement qu'il est impossible de connaître Dieu ou de savoir quelque chose sur Dieu, et donc que la révélation est impossible. Il y a des formes variantes qui disent qu'il est possible d'avoir une révélation, mais elle ne peut pas être transmise plus loin de manière rationnelle, ou une autre manière qui est alors la plus douce, en disant « Dieu existe peut-être, mais je ne sais pas s'il est possible de le connaître. » Donc un questionnement permanent plutôt qu'une affirmation. Et cette position-là, ces formes d'agnosticisme doivent être confrontées avec une vision du monde chrétienne, simplement en disant dans la première forme qu'il y a une forme de dogmatisme, de dire qu'il est impossible de connaître Dieu, c'est déjà une affirmation dogmatique que la personne devra pouvoir démontrer, et face à laquelle on va montrer la révélation chrétienne, la révélation biblique, comme étant, elle, une affirmation de la possibilité de connaître Dieu. Mais bon, c'est confrontationnel, on est d'accord. Alors un autre profil, je ne sais pas si on peut parler de profil ou de nuage, on est très dans le cloud, là, au niveau philosophique et religieux, c'est ce que j'appelle la picorée religieuse. J'ai cherché le terme parce que on est dans un supermarché du religieux aujourd'hui, où les gens prennent à gauche, à droite, ce qui leur plaît, ce qui leur semble sympathique. Alors le picorage, c'est l'acte de picorer, mais la picorée, c'est le résultat du picorage. Donc nous sommes face à des profils de gens dont les convictions sont une picorée religieuse. Et parmi les adeptes de la picorée religieuse, bien sûr, nous trouverons les gens qui se disent sans religion dès l'instant où elles ne veulent pas s'identifier à une organisation ou un courant de pensée défini par des dogmes, des règles, une pratique religieuse. On trouvera donc un rejet de la pensée dogmatique, puisqu'elle est considérée comme une source de conflit. Très souvent, on lit On lie la religion à la guerre, en disant toutes les guerres sont causées par la religion. C'est juste oublier qu'il y a 85 millions de morts causées par l'athéisme communiste au XXe siècle. Mais à part ce petit détail de l'histoire, comme diraient certains, c'est vrai que les religions ont parfois nourri, malheureusement, les guerres. Mais voyez, il y a des raccourcis comme ça dans l'histoire qui sont assez drôles. Et puis bon, c'est une spiritualité donc, qui rejette la dogmatique, qui est centrée sur les bienfaits éthiques, sur le développement personnel et les effets prétendument thérapeutiques des idées, des exercices religieux. Par exemple, actuellement, vous avez, je ne sais plus son prénom, mais le rédacteur en chef, je crois, du monde religieux, Lenoir, qui vient de sortir un livre sur la méditation, en présentant les bienfaits de la méditation sans qu'il soit question d'un dogme ou d'un objet de méditation, mais l'exercice de la méditation. Donc, il prend un peu les éléments des différentes religions pour montrer les vertus de la méditation. Et donc, beaucoup de gens se retrouvent là-dedans. Le bouddhisme, par exemple, aussi, est souvent adopté à cause de son éthique de non-violence et de sa proposition de discipline de soi, mais pas forcément adopté dans tout ce que contient la pensée bouddhique. Beaucoup de gens se disent « Ah, je me sens plutôt bouddhiste », c'est déjà dire comme ça, comme si je me disais plutôt chrétien. Ça n'implique pas qu'ils aillent dans un temple, ça n'implique pas d'autres pratiques que peut-être une éthique de vie, un autocollant pour la libération du Tibet sur la voiture et quelques autres aspects de comportement dans l'existence, d'ailleurs très sympathiques pour certains d'entre eux. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout méchant. Et puis, il y a les courants ésotériques, bien sûr, qui proposent un « wellness », qui attire les personnes en quête d'apaisement intérieur. Une petite sonnette d'alarme dans mon esprit, pas par rapport à l'heure pour une fois, c'est juste de nous dire, c'est intéressant que cette obsession du wellness d'aujourd'hui pourrait être une idole qui s'installe parfois dans nos églises, où le culte devient un moyen de wellness et pas forcément un culte rendu à Dieu. Petite parenthèse provocante, juste pour embêter. Alors, face à cette picorée religieuse, eh bien sûr, il y a des fréquents présupposés. Le relativisme, qui refuse tout dogmatisme, est un dogmatisme en soi. Si tout est relatif, c'est très dogmatique de le dire. Le panthéisme, l'idée du Dieu personnel, qui est rejetée aussi. Là, il y a un présupposé chrétien opposé, qu'il s'agit aussi de confronter. Le syncrétisme, qui est souvent superficiel, et qui se confronte en montrant les différences irréductibles entre la révélation biblique et les autres schémas religieux. Et puis les préjugés contre les religions, qui sont souvent basés sur la critique des organisations religieuses et de leur comportement, souvent malheureusement mauvais. Mais là, on peut aussi, dans un dialogue avec les adeptes de la picorée religieuse, on peut dialoguer pour leur expliquer quels sont les présupposés de la foi chrétienne, qu'ils ne rejoignent pas forcément le comportement des religions. Ah là là, je vois que le temps file. Alors l'islam est aussi, j'ai eu l'occasion samedi dernier, dans une semaine d'évangélisation à Martigny, de dialoguer avec des musulmans. Ma propre fille s'est convertie à l'islam, quoi, ma fille aînée, et donc j'ai eu l'occasion de me frotter à ma belle famille musulmane, et je crois que c'est intéressant de voir aussi que dans l'islam, alors à la différence d'autres systèmes de pensée, nous avons quelques points communs au niveau des présupposés, en tout cas partiellement. La conviction d'un monde créé par un Dieu unique, l'acceptation qu'il y ait une parole inspirée par Dieu et que la vérité se formule de manière propositionnelle, que le spirituel appartient au réel du monde, etc. Et le problème ou ce dont on doit être conscient, c'est que les musulmans, y compris les moins pratiquants, sont drillés dans une apologétique antichrétienne. C'est-à-dire qu'ils ont déjà toute une série d'objections qu'ils vont émettre même à l'avance. Alors eux, ils sont aussi très forts pour répondre à les questions que nous ne nous posons pas. Ou que peut-être nous devrions nous poser, mais voilà, il y a bien sûr des éléments qui concernent la divinité du Christ, la mort sur la croix, le rejet du péché d'association, donc du polythéisme dans lequel ils intègrent la Trinité, le fait que les textes bibliques soient corrompus, etc. Et il est nécessaire pour nous de pouvoir aussi défendre notre foi face à ces affirmations, recadrer les notions exprimées. Par exemple, fils de Dieu, typiquement, ce qu'un musulman pense du fils de Dieu et ce qu'un chrétien pense de l'expression fils de Dieu est très différente. Et il y a des sites d'islamisation, au même titre qu'il y a des sites de j'allais dire, propagande chrétienne, d'évangélisation, pardon. Et je crois que c'est vraiment important de savoir aborder ce profil-là de la bonne manière. Je vous recommande le livre « Derrière barbe et burqa » de Martin Goldsmith, qui est très pratique, mais qui explique comment approcher un musulman. Et j'ai appris à suivre ces exemples à profit. J'ai pu parler de la Trinité très librement au Maroc, à Meknès, en famille. C'était assez intéressant. La gravité du péché aussi, etc. Et donc, les deux pistes, c'est ne pas développer une approche frontale, c'est-à-dire on ne va pas commencer à attaquer le Coran, etc., mais être plutôt dans la proposition, exprimer ce que l'on vit, ce que l'on croit, et puis présenter donc des réalités existentielles que l'islam ignore, notamment la relation individuelle avec un Dieu d'amour. Ça a beaucoup d'impact sur les musulmans qui sont souvent dans une démarche très, très cérébrale et peu émotionnel, et parler de l'assurance du salut fondée sur la rédemption, qui ne s'explique que dans la vision du monde chrétienne, avec la différenciation fondamentale entre l'acte et la personne, qui permet la mort expiatoire du Christ sur la croix. Et j'arrive à la fin. Je vais assez rapidement, mais je crois que les choses sont simples. On voit dans les Écritures un accent sur la pédagogie, la manière d'approcher le prochain. Et il y a deux éléments qui, je crois, vraiment feront la différence dans notre évangélisation dès l'instant où nous avons une réflexion apologétique, mais où nous apprenons à suivre ces deux chemins. Le premier chemin, c'est la pédagogie de la réponse. Pierre nous demande de défendre notre foi devant quiconque nous demande de rendre compte. Donc il y a une demande à laquelle nous répondons. Alors ça peut sembler antinomique à l'évangélisation. Nous avons plutôt le schéma d'un prédicateur qui affirme des vérités avant d'attendre que les gens parlent, mais le chemin biblique passe par la réponse, et on trouve ça notamment dans des aspects du Deutéronome, de la pédagogie du Deutéronome, qui parle à la fois d'inculquer aux enfants la vérité, mais aussi de répondre aux questions de l'enfant quand il te les posera. Que signifient ces préceptes, etc. Donc une pédagogie de la réponse, on laisse venir la personne avec ses questions. Voilà. Et c'est aussi quand on entend les questions et qu'on demande des reformulations qu'on repère les présupposés. On voit d'où la personne vient. Et là, on peut commencer à travailler sur le fond. Et puis l'attitude, c'est quand même quelque chose de très fort. Vous voyez chez Pierre, le verset cité au niveau du volume met beaucoup plus d'accent sur l'attitude. La douceur, la crainte, la bonne conscience. La douceur qui est un terme qui peut aussi désigner l'humilité. Nous ne faisons que de transmettre du mieux que nous pouvons la vérité, que nous pensons avoir compris les Écritures. Nous ne sommes pas nous-mêmes la vérité. Hein. La crainte, qui est le respect de l'autre, bien sûr la crainte de Dieu, et la bonne conduite, qui gagne, qui donne du crédit. Paul dit quelque chose d'assez semblable aux Colossiens. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre, pédagogie de la réponse, à chacun. » Et donc, on voit, et là, bien sûr, il faut comprendre que la notion biblique de sagesse implique le comportement, que les livres de sagesse touchent profondément au comportement éthique, au comportement, à la réaction, à la manière de gérer les situations. Donc, à ce niveau-là, c'est bien la transformation intérieure opérée par l'Esprit en nous qui est décisive. Et donc, il ne s'agit pas d'être des doctrinaires, des purs penseurs. Nous devons être des hommes et des femmes transformés à l'image du Christ et qui abordent notre prochain comme le Christ le ferait, avec l'aide de son esprit. Je vous remercie.